Bonsoir. En effet, je suis bien en compagnie de Aldo Kourichi pour 55 minutes de poésie et c'est parti. Aldo Kourichi, bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous présenter à nos auditeurs, je dirais simplement que vous êtes né le 23 janvier 1975 en région parisienne, qu'après avoir exercé divers métiers alimentaires, vous avez désormais élu domicile dans les Côtes d'Armor. Vous dites vos textes par cœur, vous écrivez des textes piquants et mordants, on peut leur attribuer le qualificatif de satirique. Vous explorez notre monde, le réel, l'actualité du monde, et par un travail sur le langage, vous faites ressortir combien il est dévoyé par le souci de la communication. Un détail qui a son importance, vous avez obtenu le prix Copo en 2021, donc on vous félicite pour cela. On va explorer un petit peu ce travail, mais avant de nous pencher tout à fait sur mon invité Aldo Kourichi, voici des informations liées aux activités de l'association Les Mots d'Azur. Le vendredi 13 septembre à 19h au château de Moissartou, Timothée Laine, auteur, acteur, improvisateur, interprète de récital de poésie, est l'invité de cette prochaine soirée de poésie et musique organisée par Les Mots d'Azur. Le lendemain, samedi 14 septembre, de 10h à 12h30, Timothée Laine animera un atelier d'écriture autour du thème du silence à la trace, de la trace au souffle, de la parole à l'écrit. Et cela se passera dans la salle à manger du château de Moissartou. Et pour vous donner un avant-goût de ce que peut proposer Timothée Laine, voici un court poème intitulé « J'appelle cela la joie ». D'abord le corps, tout le corps, déplacé par le souffle du monde, le souffle de l'homme. Lorsque les deux souffles s'effleurent, s'embrassent, alors la voix, le grain de la voix, puis la parole multipliée, celle du commencement et celle de demain, le son et le sens ensemble dans l'instant, la promesse réalisée du visage. Retenez donc les deux dates, vendredi 13 septembre à 19h, samedi 14 septembre de 10 à 12h30, au château de Moissartou. Et je rappelle que ces deux rendez-vous sont avec Timothée Laine, auteur, acteur, improvisateur, interprète de récital de poésie. Retour à mon invité, le poète Aldo Kourichi. Aldo, mon petit doigt m'a dit que dès l'âge de 15 ans, la poésie prenait pour vous une grande importance. Comment en avez-vous pris conscience? Est-ce au collège, au lycée, dans une bibliothèque, auprès d'un adulte que le déclic s'est produit? Et quels poètes vous ont touché?
Pour commencer, quand j'avais 15 ans, je m'intéressais aux poètes chinois, comme Li Po, Wang Wei, voilà, des vieux poètes chinois. Et je ne sais pas pourquoi je m'intéressais à ça. En fait, je crois que ce qui m'intéressait surtout, c'était l'ambiance que j'imaginais autour de ces poètes. Et en fait, je m'étais imaginé quelque chose de complètement fantasmatique et je voulais recréer ça, et probablement que c'était une façon de fuir un peu l'environnement familial dans lequel j'étais à ce moment-là.
C'est en 2018 que la vraie vie de poète commence, si je peux le dire ainsi. En effet, cette année-là, un premier recueil paraît en 2018 intitulé « Made in Eden » aux éditions de l'Atelier de l'Agneau, suivi d'un deuxième intitulé « Barnabas » aux éditions Van Loo. On reviendra sur ces recueils. Mais pourquoi 2018? Est-ce un pur hasard ou bien l'aboutissement d'un parcours particulier ou d'une recherche particulière?
Alors, en fait, ça n'a pas commencé en 2018, mais en 1998. C'est à la suite d'une rencontre... Enfin, je suis tombé amoureux fou d'une femme. En la rencontrant, c'est comme si mon cerveau s'était allumé. Et je me suis rendu compte après coup à quel point j'étais stupide avant, et brusquement, j'avais un peu plus de conscience à son contact, parce qu'elle était très exigeante. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être un petit peu plus réveillé qu'avant.
Alors donc, J'aimerais bien vous entendre dire, Aldo, pour laisser les auditeurs découvrir votre univers. Et puisque j'ai annoncé que vous aviez reçu le prix Copo, peut-être nous en dire un extrait de cet ouvrage dont le titre est
« La nuit de la Grèce ». La Grèce comme le gras. Les magasins Bricorama ont obtenu l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Mais comme cette disposition nuit au petit commerce, la loi exige que les rayonnages soient couverts de bâches afin que les clients ne puissent acheter que le strict nécessaire. Cette habitude est entrée dans les mœurs et certains humains se sont mis à imiter les magasins Bricorama. Ils sont ouverts les jours fériés, mais on ne peut pas communiquer avec eux. Il y a une bâche, un film qui recouvre la discussion. Le génie humain aurait pu s'arrêter là, mais mon père, ce Bricorama ouvert le dimanche, lui qui est toujours en avance sur son époque, mon père a développé une technique d'évitement qui supplante le principe de la bâche. Allongé dans le frigo, il s'adonne au mimétisme alimentaire, camouflé en escalope de dinde. Ou bien dans le placard, un bocal à cornichons, nous voyons ses yeux flotter dans la saumure. Parfois, j'entends ma mère pousser un cri. Pensant préparer le poulet, elle réalise qu'il s'agit de son mari, nu, les pattes écartées, du beurre persillé sous les bras. 3 semaines que je le cherche dans tout l'appartement, je voudrais parler avec lui, comprendre ce qu'il a, savoir de quoi il a peur, pourquoi il nous fuit. Ma mère le cherche, elle aussi. Elle palpe les escalopes, inquiète, se méfie du fromage. Sur le point d'abandonner, j'ouvre la porte du four et je vois mon père, accroupi sur la plaque, le dos gratiné, qui ramène les patates autour de lui avec ses bras.
Merci beaucoup. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais vous ne lisez pas. Vous avez tout dans la tête et vous dites par cœur. Est-ce que vous avez suivi une formation de comédien ou d'où vous vient cette envie ?
Alors, j'ai suivi une formation de comédien, effectivement, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années, tout début des années 90. Ça n'a pas duré très longtemps, cette histoire de, pour ce qui est du fait d'apprendre par cœur mes textes. Oh, ça, c'est très facile. En fait, j'ai trouvé une technique, il suffit de lire un texte sur la feuille avant de faire la sieste. Ensuite, on fait la sieste pas très longtemps et quand on se réveille, on a déjà pas mal enregistré le texte. Il suffit de répéter pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, répéter les lignes les plus unes après les autres, et puis le texte rentre comme ça facilement. Puis on peut, en une semaine, apprendre un quart d'heure de lecture comme ça, voilà.
Eh ben merci pour le tuyau, vous avez bien retenu, n'est-ce pas ? Avant la sieste. Ah, on a déjà un petit aperçu de cet univers de l'absurde, de cet objet poétique non identifié, parce qu'on ne sait pas très bien, enfin, c'est une prose poétique, c'est une petite histoire, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est toujours une plongée dans une forme de désarroi, dans la perte de sens, comme disait Bernard Noël. Donc c'est une sorte de machin, mais c'est efficace, n'est-ce pas, chers auditeurs ? Dans la manière que vous avez de dire les choses, il y a comme un effet d'accumulation et de vitesse, mais ça je pense qu'on le retrouve beaucoup dans vos écrits. Je ne vais pas résister à l'envie de lire un extrait d'une critique de Carole Daricarère. J'ai trouvé ça sur le site Citeaudis. Alors, si vous ne connaissez pas ce site de poésie, allez voir, tapez sur votre moteur de recherche Citaudis. C'est Pierre Le Pilouer qui est à l'initiative et qui est le grand Manitou de ce site de poésie. Il suffit d'une simple connexion internet, Citeaudis, et vous tombez peut-être sur cet article de Carole Daricarère, un article qu'elle a écrit à propos de votre premier livre, Aldo, et qui, je le rappelle, s'intitule « Made in Eden », soit « Fabriqué au paradis ». Comment prendre le lecteur en otage ? Le retourner comme une crêpe, le faire passer du coq à l'âne, du rire aux larmes, du lard au cochon, jusqu'à ce qu'il ne sache plus sur quel pied danser, n'en croit plus ses yeux, pourvu qu'il en dépende et en redemande. Attachez vos ceintures, soyez inquiets, Aldo Kureishi ce grand Halloweenien, va vous jouer quelques-uns de ses tours aux dépens de la grande roue, perchée au-dessus du vide. Vue plongeante sur la cour au miracle, voici son premier livre, Un coup de maître. Made in Eden, y a pas photo, c'est le livre que l'on n'attendait plus. Un petit bijou macabre, un miracle à l'état pur, une machine à rêver, à fond la caisse, qui ne se prend ni le chou, ni la tête. Ça défie l'imagination, fait bouger les lignes. Un livre de poésie loufoque indispensable qui ne débande pas, sans pathos ni complexe. Ose la caricature et fait au passage un joli pied de nez au cercle des poètes disparus. J'ai envie de dire, votre paradis tient plutôt du cauchemar, non ? Avez-vous une intention cachée derrière ce déferlement de mots et cette ironie ? Voulez-vous créer un électrochoc dans l'esprit du lecteur afin de le réveiller, de le faire réagir ? Et alors, vous passez du côté des poètes engagés qui dénoncent, qui lancent des alertes ? Ou bien là n'est pas votre ambition, vous partagez une forme de trop-plein comme on essaie de se guérir et de guérir la réalité par la parole ?
Ah, en fait, c'est pas le lecteur que ça vise, mais moi en premier lieu. J'essaie de m'électrocuter avec mes propres textes et avant tout, le meilleur électrochoc, c'est en fait quand je me fais rire moi-même. C'est-à-dire que j'ai oublié le texte de la veille ou de l'avant-veille, et je le lis et puis ça me fait marrer. En général, si on rit, c'est pour une bonne raison, il y a une raison souvent cachée. C'est ça que je vise en fait dans mes textes. Après, si ça choque aussi, pourquoi est-ce que ça choque ? Je sais pas, ça choque. J'aime bien ce qui est un peu tordu, quoi, je dois bien l'avouer, mais... C'est mon imaginaire qui est comme ça.
Ouais, enfin, c'est un imaginaire qui part quand même d'observation de la réalité.
Oui, alors c'est vrai que je parle d'observation de la réalité, mais en fait, quand j'y repense, là maintenant, je me dis que c'est vrai que ça fait penser aux cauchemars, souvent. Moi, j'aime bien les cauchemars. Je crois que je suis assez content quand je fais un cauchemar, en fait. Quand je me réveille et que j'ai vraiment quelque chose de... un peu étrange que je viens de vivre, ça me plaît. C'est comme si j'avais été au cinéma, mais c'est mieux que le cinéma. Effectivement, oui, je pense à la réalité, mais je sais pas si je m'engage réellement. En fait, simplement, je prends en note le fait que j'ai été heurté par telle et telle chose, mais pas du point de vue moral. Simplement, j'ai été heurté. J'ai été l'objet de quelque chose, quoi. D'un abus de pouvoir. Il y en a plein, des abus de pouvoir politiques, la plupart du temps. Et en fait, ce que je note, j'essaye pas de dire que je me révolte contre cet abus de pouvoir. Je dis, ah, cet abus de pouvoir m'a fait ça. Pour moi, le plus évident, en fait, c'est de pousser la logique de cette réaction en moi et d'essayer d'aller un peu plus loin. Par exemple, je reçois une lettre d'un organisme qui me prévient que je vais avoir la visite d'un technicien qui va visiter mon appartement pour voir si les installations, le chauffage, la canalisation sont en bon état. Le courrier me prévient, et ça c'est vrai, hein, ça m'est vraiment arrivé, le courrier me prévient que si jamais il arrive du mal au technicien, ça pourrait se retourner contre moi. Et moi, je lis ça. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils s'adressent à moi comme ça ? Mais je les connais pas, ces gens-là. Pourquoi ils me parlent comme ça ? Et alors, j'ai une réaction un petit peu épidermique et stupide. Et puis, le lendemain, je relis la lettre et je me dis, mais c'est vrai, ils ont raison. Il faudrait que j'enlève les couteaux, les fourchettes, que je mette des matelas sur les murs, que je condamne les fenêtres. Je condamne les fenêtres. Et le mieux même, ce serait que je prenne des calmants. Alors, je prends des calmants. Et le jour dit de la visite, ce que je fais, c'est que je laisse la porte ouverte, je laisse un petit mot sur la porte et je m'enferme dans l'armoire. Et j'attends que le monsieur arrive. Sur le petit mot dans la porte, il y a marqué, je ne vous veux aucun mal. Je suis dans l'armoire.
Voilà, c'était une impro de Aldo Kourechi. Merci, merci, merci. Il y a un peu du Charlie Chaplin en vous, non ?
En fait, oui, j'aime bien tous les personnages comiques, tous les gens qui sont drôles, qui sont empêtrés dans la réalité et qui essayent d'en s'en ressortir. Je me souviens que, justement, Carole Daricarer parlait de Buster Keaton. Il me semble que François Huglot, toujours sur Citaudi aussi, avait peut-être parlé de Buster Keaton. Ou alors c'était Bruno Fernand. Enfin, bon, toutes ces personnes qui ont dit du bien de moi et je les en remercie. Mais je pense aussi à d'autres personnes comme Blanche Gardin, par exemple. Elle aussi, elle est un peu empêtrée dans le réel et je me suis beaucoup inspiré d'elle. Là, je parle pour les performances, les lectures que je donne en public.
Alors, on va passer maintenant au deuxième livre, intitulé « Barnabas » et paru aux éditions Van Loo en 2018. Il fait suite à la parution de « Made in Eden » et il s'agit de 98 poèmes qui font écho aux 105 poèmes de « Made in Eden ». Ces 98 poèmes délimitent comme un territoire. On a l'impression de voyager dans les plis d'un corps antipoétique avec ce qu'il cache et ce qu'on va y chercher de l'âme humaine. de sa capacité au cynisme, pour le dévoiler. Le titre « Barnabas » fait entendre aussi bien « Bartaba » que « Barabbas » ou encore un « Barnabé » qu'on aurait mis au féminin pluriel. Bref, c'est un livre qui nous prend en otage dans un univers où il ne s'agit pas de s'aimer les uns les autres, mais le plus souvent de se tuer les uns les autres. C'est un livre gore, un livre trash. Alors, qui est donc Barnabas, Aldo Corrichi?
Alors, Barnabas, c'est effectivement Barnabé, mais c'est le Barnabas qu'on trouve dans le château de Kafka, traduit par George Arthur Goldschmidt. Il a choisi de laisser le nom Barnabas et pas Barnabé. Dans le château, c'est le messager. Et puis, il ne fait pas très très bien son travail de messager. Voilà pourquoi j'ai pris ce nom-là.
Voilà, Kafka. J'ai choisi deux extraits dans votre Barnabas que j'aimerais que vous lisiez, dont un qui est intitulé « La nuit de la San Lorenzo ». Et j'imagine que ce titre vient directement du nom du film des frères Taviani, « La notte di San Lorenzo ». Est-ce que j'ai raison ?
Oui.
Pour rappel, voilà ce que raconte le film sorti en 1982 et on verra pourquoi j'ai pensé à lui en lisant votre poème. Une nuit du 10 août, une femme se remémore une autre nuit de la Saint-Laurent durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands battent en retraite et veulent détruire un village afin de freiner l'avance des alliés et des partisans. Un groupe d'habitants, conduit par Galvano, refuse d'obéir aux injonctions de l'armée allemande et ne se regroupe pas dans la cathédrale. Parmi les décombres de la guerre, ils vont à la rencontre des Américains. Ceux qui sont restés au village sont horriblement massacrés dans l'église par les nazis. Les autres livreront le combat aux côtés de la résistance contre les fascistes. Les Américains finiront par libérer le village, mais les dégâts humains et matériels seront terribles. Alors maintenant, je vais vous donner cet extrait à lire, « La nuit de la San Lorenzo ».
J'ai vu les yeux brillants des véhicules qui descendaient vers le village. C'étaient des loups métalliques. Et à l'arrière des loups, il y avait des corps chauds qui ballottaient. Les têtes sortaient des fesses des loups avec du sang dans les narines. Ils descendaient vers le village, les phares allumés, avec des têtes mortes qui leur sortaient du derrière. Et arrivés en bas, en entrant dans le village, les loups métalliques se sont mis à rouler lentement vers la maison. Quelqu'un les avait prévenus, leur avait dit qu'il restait peut-être encore quelque chose ici, dans ce village. Et les loups se sont garés devant chez nous. Alors j'ai dit à ma femme de se préparer, que j'avais été heureux de vivre avec elle, et qu'elle pouvait toujours essayer de se cacher, mais que ça ne servait à rien, et que, pour ma part, j'avais l'intention de leur ouvrir, parce que je savais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et j'ai vu les esprits qui vivaient à l'intérieur des loups leur sortir de la tête. Les yeux continuaient d'éclairer le chemin et on voyait les jambes des esprits passer dans les faisceaux. Je les regardais venir depuis la fenêtre de la cuisine. Ils ouvraient grand la bouche et les langues sortaient, raides comme des bouts de bois. Les langues sortaient comme des bras et elles se dressaient vers le haut parce qu'elles savaient qu'en cherchant bien, elles finiraient par trouver quelque chose ici, dans cette maison. Et j'ai ouvert la porte parce que je savais qu'on ne pouvait pas faire autrement.
Alors moi, ce qui me frappe, c'est ce sentiment d'impuissance. Et je le trouve assez fascinant. Ce sentiment d'impuissance que beaucoup de gens aujourd'hui, face au déroulement et à l'évolution des politiques, des décisions, des événements, jusqu'à accepter l'inacceptable, les loups, les fascismes, les régimes autoritaires. A-t-on perdu le sens de la résistance et de la bataille collective contre ces régimes autoritaires? Comment vous interpréteriez ce que vous décrivez si bien dans ce poème?
Ah, effectivement, je pense que le sens. Alors, je suis désolé pour tous les militants, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a du mal à. On a du mal à y arriver, quoi. Enfin, c'est pas possible. Je pense que oui, c'est complètement une forme d'impuissance. C'est vraiment ça que je vois, quoi. Je repense au film, à La Nuit de San Lorenzo. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Et ce qui m'a le plus frappé dedans, c'est à un moment, il y a une fusillade sur la route et tous les villageois qui sont en fuite. Se précipite dans un champ, je crois que c'est un champ de maïs, je suis pas sûr. Il se précipite dans le champ de maïs. Et en face, il y a les fascistes qui eux aussi sont en déroute, qui s'enfuient dans le champ de maïs. Et tout le monde part dans tous les sens. Et puis de temps en temps, il y en a un qui tombe sur l'autre. Et c'est terrible parce que on se rend compte que les gens qui tombent l'un sur l'autre comme ça, nez à nez, en fait, ils se connaissent, c'est des voisins. Ils étaient dans le même village. Et parfois même, c'est des gens de la même famille, c'est des cousins. Et au début, les deux sont en fuite, ça fait longtemps qu'ils marchent sur la route. Le premier réflexe est humain, c'est ah, je te reconnais, ou alors c'est mon frère, ils se tombent dans les bras, et après ils se tirent dessus. Moi, je trouve ça sidérant, je trouve ça sidérant, et je me dis, c'est encore là, tous ces trucs-là, c'est encore là, c'est encore vivant. Ça me fait penser aussi à la guerre 14-18, les gens dans les tranchées pendant Noël, ils décident qu'on arrête de se tirer dessus, puis on fait la fête. Ça revient quand même, et puis bon, bah évidemment, le lendemain, on commence à s'éventrer. On est impuissant, mais il y a encore en nous quand même ce désir de plutôt faire la fête, de plutôt être content de se retrouver. Mais malheureusement, ce truc-là, ce désir reste enseveli sous le quotidien morne et un peu stupide. Je suis désolé, pardon de dire ça.
Ce que vous décrivez, ça s'est vécu sur tous les continents, pendant la guerre d'Espagne, chez les Hutus et les Tutsis, etc., etc. Je vais encore vous mettre à l'épreuve. Je vais vous demander de lire un deuxième extrait, pris toujours dans votre livre Barnabas, qui montre ce que j'ai compris comme être un inceste et dont le titre est Prurite.
Je sais qu'il y a un instrument de torture dans la chambre, mais je ne sais pas lequel. Je ne sais pas si c'est le réveil, ou si c'est le placard, ou alors le lit. Ça peut être n'importe quoi. Je sais qu'il est là parce que j'ai entendu un bourdonnement, et quand j'ai allumé la lumière, ça s'est arrêté. Un objet parallèle. Quelque chose qui a été remplacé. Un objet qui, si je m'en sers, va me faire passer de l'autre côté et après je ne pourrai plus revenir. Je reste là, toute la nuit, les bras écartés, tâchant de ne rien toucher tant que je ne sais pas qui a retourné sa veste. À un moment, la tension devient telle que je suis obligé d'aller dans sa chambre et de vérifier si ce n'est pas ma fille. Je soulève la couverture et je me dis, fais attention. Je sais ce que je suis en train de faire, mais je ne sais pas si c'est moi qui le fais ou si c'est l'objet. Et je soulève sa robe de chambre. Un peu avant d'arriver au nombril, je réalise qu'elle est réveillée. Elle me regarde et elle dit, quand on arrive à la frontière et qu'on veut franchir la ligne, quand on s'apprête à pénétrer dans mon pays, à la frontière, il y a un paillasson avec une pancarte, et la pancarte dit s'il vous plaît, quand vous entrez dans mon pays, essuyez-vous les pieds.
Eh ben voilà, c'est dit. Et en effet, on a tous, j'imagine, envie de protéger les enfants, et que c'est même, à mon sens, un devoir des adultes, et qu'une société qui maltraite ses enfants, quelle que soit la manière, est une société malade. On ne se voile plus la face, l'inceste, c'est une réalité. Je rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct, et que depuis la maison de la poésie de Normandie, nous sommes en compagnie d'Aldo Kourechi, poète et performeur. Et nous parlons de son deuxième livre intitulé Barnabas. Dans ce livre, encore une fois, et nous l'avons entendu, vous n'y allez pas de main morte. Est-ce qu'écrire a pour vous un effet cathartique? Est-ce qu'écrire tous ces travers, toutes ces perversions, tous ces manquements, tous ces démons et faillites de l'être humain, est-ce que ça vous soulage un petit peu le cœur ou la conscience?
Non, ça soulage pas du tout, malheureusement. Dans le poème que je viens de lire, il n'y a pas seulement l'inceste, en fait. Il y a aussi quelque chose. En fait, je fais des fois mentalement un collage avant d'écrire le poème. Mais c'est un collage que je fais malgré moi. Et si je parle d'inceste, mais en fait, de violence sexuelle, de l'agression d'un homme sur une femme, je pense aussi au colonialisme. Et j'aime bien aussi que les choses soient légèrement ambiguës. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Et la phrase que dit la petite fille à la fin, quand vous entrez dans mon pays, essuyez-vous les pieds. On pourrait dire que c'est par exemple un pays qui a été colonisé ou qui ne l'est pas encore et qui voit arriver les colons qui dit ça. Mais en même temps, il faut que je précise que cette phrase m'a été rapportée par mon frère qui a vécu, mon frère Aurelio, qui a vécu en Thaïlande et qui était obligé à certains moments d'aller en Birmanie pour, je sais plus, pour des raisons de passeport, de visa, etc. Et quand on revenait, quand on passait de la Birmanie à la Thaïlande, il y avait effectivement un message, une pancarte qui était adressée au Birman, et il y avait marqué ça. Quand vous entrez dans mon pays, essuyez-vous les pieds. Donc ça prend une autre tournure, une autre forme. On voit le mépris des peuples les uns pour les autres, sachant que les Birmans sont des travailleurs sous-payés en Thaïlande. Voilà. D'après ce que je sais, hein, j'ai jamais mis les pieds dans ce pays, mais bon. Donc pour revenir à est-ce que je me soigne, est-ce que je réussis à apaiser la réalité avec ça, dans ces poèmes-là, non. En fait, ça dépend lesquels. Ça dépend des poèmes, quoi. Là, j'ai l'impression de prendre l'événement de plein fouet, en plein visage. Mais par moments, j'arrive à en rire, et quand j'en ris, c'est que le médicament a fait effet.
En préparant cette émission et après m'être imprégné de vos textes dans différents livres, je me demandais si vous ne jouiez pas un peu à l'oiseau de mauvais augure. Un peu comme Aldous Huxley, à son époque, nous envoyait en 1984 et décrivait un meilleur des mondes totalitaires. Vous nous envoyez en 2050 faire un tour dans un monde qui n'est pas seulement surpeuplé, mais hyper peuplé, où les humains sont réduits à l'état mental et social de la fourmi, dépendant d'une carte à puce informatique. Dans ce fameux Barnabas, on lit ceci. Cette file d'attente, c'est notre planche de salut, plus qu'une religion. C'est une vie parallèle. C'est un autre endroit, dans un autre endroit, à l'intérieur d'un autre endroit. Nous n'avons ni début, ni milieu, ni fin. Nous sommes les chenilles processionnaires de Dieu, chacun de nous étant l'arrière-pensée de celui qui se trouve devant. Nous savons que, quelque part en amont, il y a la reine-mère de la file d'attente, la tête primordiale, et nous psalmodions les mantras de la file d'attente. Que notre carte soit valide, que notre numéro vienne, que notre tour arrive. Alors on sait bien qu'avec l'intelligence artificielle, les téléphones portables, toutes ces applis, nous en sommes déjà réduits à une forme de paralysie si l'on sort du système. Et paralysie s'il y a le moindre bug. Est-ce que vous voyez le futur tel que vous l'écrivez, Aldo Kourefi?
Eh bien, en fait, ce texte a été écrit en 2018, fin 2018. Je parle de gens qui sont obligés de faire la queue. J'ai donc écrit ce poème un petit peu. Je fais pas l'oiseau de mauvaise augure. En fait, je pense que j'étais en dessous de la réalité quand on voit ce qui s'est passé à partir de l'année 2020, par exemple. Je pense que là, j'étais largement en dessous de la réalité. Mais je m'occupe pas du futur, ni de choses comme ça. Alors c'est vrai que des fois, j'essaye d'envisager. Mais en fait, c'est toujours parce que j'essaye de m'amuser. Donc en fait, je prends une situation problématique. Mais en fait, quand on a vécu ça, la file d'attente, une file d'attente, on a l'impression qu'on va mourir. C'est de ça que je parlais. Je me suis simplement imaginé un type qui se met à faire la queue. Il voit un mec arrêté, il s'arrête derrière lui, puis il fait la queue. Vous aussi, vous faites la queue? Non, non, moi j'attends ma femme. Puis bon, quand même, on sait pas trop, le mec est pas trop sûr, donc il reste quand même derrière l'autre, et puis il sort sa carte de réduction, puis on a un autre qui vient se mettre derrière lui, qui se met à faire la queue, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est simplement une image stupide qui m'est venue dans la tête, et je me suis mis à faire ça, et à écrire, à développer ça. Comme quoi le sens apparaît sur des agglomérats de choses stupides.
Pas si stupide dans le fond, hein. Les faits en eux-mêmes sont stupides, mais l'observation est fine et juste. Donc je le disais en vous présentant au début de l'émission, sur scène vous dites vos textes par cœur. Alors pourquoi ce parti pris de dire en public des textes par cœur, puisqu'on voit plutôt cet exercice pratiqué par des comédiens ou parfois des slameurs ou... Enfin, vous avez déjà peut-être légèrement répondu, mais je repose quand même la question pour affiner.
Alors là, on a un très bon exemple en fait pour répondre à la question exactement. Pour quelle raison j'apprends mes poèmes par cœur? Tout à l'heure, j'ai eu le poème intitulé Prurite, et de mon point de vue, je l'ai mal lu. Je l'ai mal lu parce que j'y ai mis du pathos, et puis je ne parle pas comme ça dans la vie de tous les jours, tout le temps. D'ailleurs, même là, à un moment où je parle, je ne parle pas comme ça d'habitude. Là, je suis un petit peu tendu, je suis un petit peu anxieux. Et si j'apprends mes poèmes par cœur, c'est parce que le poème, une fois que je le répète tous les jours, le matin, le midi, le soir. Et quand je fais une lecture, je la prépare 2 mois à l'avance. Et les textes, à la fin, je les dis comme je pourrais dire mon code de carte bleue ou mon numéro de sécurité sociale. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Et en fait, il faut que j'enlève le sens du texte, de ce que j'ai voulu mettre, sinon je surjoue. Et donc pour moi, le seul moyen d'enlever du sens au texte, c'est de l'oublier. De l'oublier comme quand on répète un mot, jusqu'à ce que le sens de ce mot disparaisse. Je fais la même chose avec le texte. Il faut que j'enlève le sens pour moi, pour que l'auditeur ou l'auditrice puisse recevoir ce sens-là. Car sinon, je me mets à lire un texte avec exactement la même émotion et les mêmes affects que j'ai ressentis pendant que j'écrivais le poème. Ce qui est très mauvais. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, si je fais ça, c'est un peu comme quelqu'un qui rit à sa propre blague. Et je ne peux pas faire ça. Il faut pas faire ça. Le mieux, c'est d'enlever du sens et de ne pas savoir ce qu'on dit.
Ou bien alors dire comment on marche sans y penser.
Exactement. Oui, exactement. Dire comment on marche. D'ailleurs, très, très bonne image, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'apprends mes textes, c'est en marchant.
Après vos 2 premiers livres dont nous avons parlé, viennent 2 autres, édités par l'Atelier de l'Agneau, dont les titres sont « Nuit de la Grèce » et « Roi de la Sueur ». Voilà des titres provocants. Des titres qui évoquent un écœurement, un dégoût, comme pour annoncer la couleur, comme pour dissuader, repousser quiconque ne saurait pas aller au-delà de ce que ces titres évoquent de plus ou moins glauque. Il n'y a de votre part aucune manœuvre de séduction, bien au contraire. Qu'est-ce qui préside au choix de tels titres que je rappelle « Nuit de la Grèce, roi de la sueur »
Pour moi, la Nuit de la Grèce... En fait, c'est une sorte de déformation de certaines phrases qu'on peut voir dans les supermarchés, la semaine du goût, la semaine asiatique, etc. Et en fait, je prends ça dans un supermarché, qui est pour moi un lieu abominable. Si je parle de la nuit de la Grèce, en fait, c'est une sorte d'écœurement, de sommet de la chose la plus immonde qui soit. C'est la nuit de la Grèce. On est arrivé là. On s'est tellement empiffré qu'on en est arrivé là. Pour le roi de la sueur... on a tellement trimé, on est tellement des esclaves que maintenant on est devenus les rois de la sueur. Et en même temps, il y a un roi de la sueur qui vient vampiriser notre sueur. Il y a dans le livre, le roi de la sueur, il y a des tuyaux partout avec la sueur qui circule partout. Le roi de la sueur, il est dans son palais et il nage dans sa piscine de sueur. Il y a même un jet d'eau qui recrache la sueur. Et pendant qu'il est dans son bain en train de prendre la sueur, on voit ses premiers ministres qui sont en train de faire du ski nautique sur la sueur. Et après, il y a le roi de la sueur qui est là-dedans, comme ça, et qui chante la chanson de la sueur, le mantra de la sueur. Qui a sué sur A. Voilà. Et pourquoi est-ce que. Comment ça me vient le roi de la sueur, c'est parce que je pense que ça devait être un été en canicule, je transpirais et j'ai pensé à ça. Et je devais être en train de trimer comme un malade.
Alors, quand vous racontez tout ça, moi je pense aussi à Alfred Jarry.
Ah oui. Alors, je ne suis pas un grand amateur d'Alfred Jarry.
Bon, alors on n'insiste pas sur Alfred Jarry, ça n'a aucune importance. Donc, le ton de ces 2 livres, peu ou prou, c'est le même que dans les 2 premiers livres dont nous avons parlé. Il s'agit d'histoires courtes ou de poèmes, parfois en prose, parfois en vers, et en prise directe avec le réel de ceux qu'on appelle parfois les petites gens. Il y a de l'ironie grinçante. On a parfois l'impression de regarder un cartoon ou de lire une BD qui met en valeur l'humour noir et qui met en évidence la frontière étroite entre normalité et folie, entre absurde et burlesque. Et je vais donc vous demander d'illustrer tout ça Aldo Qureshi, en lisant quelques extraits, aussi bien de La Nuit de la Grèce que Le Roi de la Sueur.
Avec ma femme, on a décidé d'arrêter les diminutifs. Moi, de ne plus me faire appeler mon lapin, et elle, ma biche, bibiche, etc. On a décidé de s'appeler tous les 2 Dieu. Se simplifie les entretiens.
Et d'une certaine façon, ça nous met sur un pied d'égalité. Seulement, vous savez ce qu'on dit à propos du naturel. Et là, ça y est, elle s'est remise à me donner des ordres. Elle appelle ça des flux de conscience auto-engendrés. Le matin, elle déboule avec mon planning. Elle me dit de faire ça et ça, me donne des conseils bien-être, de ne pas manger entre les repas, d'éviter les fritures, de faire du sport, de dire en partant pense à étendre le linge et de me faire remarquer que j'ai passé l'âge de jouer à World of Warcraft. Et quand je fais la liste des courses, elle passe derrière moi et elle raye le pack de bière, les chips, les Kinder Bueno. Une fois dans le magasin, bon bah alors qu'est-ce qu'on achète? Et elle, j'en ai marre que ce soit tout le temps moi qui décide de tout. Prends des initiatives.
Alors ça, c'était dans la nuit de la Grèce, la non-dualité. Et on va passer maintenant au roi de la sueur avec Ajax Huitre.
Elle avait eu si peur. Quand il était entré tout à coup dans la chambre, que sa tête était devenue du verre. Une fine enveloppe de verre avec du ciel à l'intérieur. N'importe qui aurait pu demander le divorce à cause de ça. Mais lui, il était prêt à l'aider, à faire des efforts. Et il lui avait acheté du produit pour les vitres. Et bien sûr, puisqu'elle avait maintenant du ciel à l'intérieur, il avait été obligé de le faire lui-même, de lui laver le visage, de faire lui-même les vitres. Et un jour, il lui avait brisé la tête sans faire exprès. Elle avait perdu l'équilibre, sa tête avait tapé contre le rebord de la table et elle avait volé en éclats. Lorsque la tête de sa femme s'était retrouvée par terre, en mille morceaux, le visage brisé, le nez, les lèvres en mille morceaux. Il avait été chercher la pelle et la balayette. Il avait balayé les restes du visage pour que le corps, debout à côté de lui, qui avait du mal à trouver ses repères à présent, il avait balayé les bouts de verre pour que le corps ne se blesse pas les pieds.
Merci. On va passer à l'homme Atlantide. L'homme de l'Atlantide, pardon. Et toujours dans Le Roi de la Sueur.
Je me suis encore fait virer du supermarché. À cause de mes palmes et des bouteilles d'oxygène. J'ai eu beau expliquer au vigile que c'est une question de conscience professionnelle. Que je dois être prêt à plonger à tout moment et il m'a quand même jeté sur le trottoir. Quand on a la plongée dans la peau, on doit être prêt, quoi qu'il arrive, à rejoindre les abîmes. Si je veux pouvoir un jour m'ébattre en votre compagnie, poulpe, évoluer parmi les murènes et chevaucher le calamar géant, je dois rester sur la brèche. Même au lit, je garde mes palmes. Je dors avec mon masque et mes bouteilles, car les abysses peuvent arriver n'importe quand. Même chez le dentiste, je m'allonge en gardant mon matériel. Mais enlevez au moins votre masque, dit le dentiste. Et moi, je ne peux pas. Les abîmes peuvent arriver à n'importe quel moment. Même si les gens se moquent de moi. Même si on ne peut pas vraiment parler de récifs coralliens, ici, dans cette ville. Et que la seule murène du coin travaille chez Carrefour. Moi, en tout cas, je suis prêt.
Alors on rit en vous écoutant, Aldo Kourichi, mais c'est quand même de l'ordre du rire jaune. Il m'a semblé pourtant que jamais on ne décèle de pointe de mépris dans vos descriptions. Pourrions-nous aller jusqu'à dire que vous éprouvez une forme de tendresse pour ces personnages que vous montrez un peu ridicules dans ces deux livres?
Oui, complètement. Tout à l'heure, par exemple... Je parlais de la nuit sans La San Lorenzo et puis des gens qui fuyaient, des partisans et des fascistes qui se retrouvaient puis qui se tombaient dans les bras l'un de l'autre parce qu'ils sont cousins, cousines. Bah, même pour eux, là, même pour les fascistes, finalement, ça me fait mal au cœur qu'ils en soient là. Et ça me rend triste, quoi. Et bah, ces personnages que là que j'invente, là, le mec qui plonge, c'est pareil, enfin je sais pas, ça me. Je peux pas tomber dans le mépris, je peux pas, enfin c'est assez compliqué. Je me sentirais, je pense qu'ils auraient gagné si je tombais là-dedans, en fait. Même les hommes politiques, j'ai un peu du mal. Même quand ils sont très ridicules. En fait, je crois qu'ils sont tellement ridicules que c'est impossible d'être méprisant. Ils font le boulot tout seuls. Pardon.
On vous entend, Aldo. Alors, il est une tradition dans cette émission qui est que l'invité, vous en l'occurrence, partage avec les auditeurs une musique, une chanson, quelque chose qui l'accompagne pendant l'écriture ou quelque chose qui l'a marqué, quelque chose de symbolique. Quel serait votre choix, Aldo, et pourquoi?
Donc je dis, alors je prononce le titre de la chanson. Alors, parce qu'en fait, j'ai un accent vraiment pourri en anglais. Donc, c'est Paul Simon et c'est 50 Ways to Leave Your Lover. Voilà. Faut que je précise que j'ai découvert cette chanson grâce à Jackie qui travaille à Follavoine à Mélionnec. Elle est très gentille. J'aime bien aller faire les courses quand elle est là parce que je la trouve gentille et sympa.
Voilà, alors pour donc, cette gentille fille de Mélionnec, Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Vous venez d'entendre Paul Simon interpréter et chanter 50 Ways to Leave Your Lover, et c'était le choix de mon invité Aldo Kourefi, poète performeur. Nous allons à présent parler de Ground Zero, et la description du livre faite pour la vente est celle-ci. La vie dans un immeuble est faite d'excroissances inquiétantes et cocasses, et les personnes comme les objets débordent de leur rôle. ou bien la peur, ou bien le rire, animent le lecteur emporté par ce dédale de scènes sans dessus dessous. Est-ce que c'est la manière dont vous décririez vous-même ce livre, Aldo Kureishi? Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit de faire jouer au théâtre vos textes? Parce qu'on dit poésie, mais votre écriture est bien aussi un peu scénographique. Ça pourrait fonctionner comme des sketchs, comme la comédie dite de boulevard.
Oui, en fait, tous les textes que j'ai écrits, tous ceux qui ont été publiés, à chaque fois les textes, je les envisage et les écris en fonction d'un rapport scénique et d'une oralité. Toujours. C'est d'ailleurs ce qui a transformé ma façon d'écrire. C'est dès l'instant où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'écrive, non pas pour moi dans le réduit de ma petite chambre, ou plutôt de la cuisine en fait, parce que j'écris toujours à la cuisine et pas dans ma chambre. J'envisage le fait de pouvoir dire ce que je suis en train d'écrire sur scène. Pour ce qui est de la description du dernier livre, donc il a été entièrement pensé pour quelque chose de scénique. D'ailleurs, je suis en train de préparer en ce moment une performance assez longue. J'envisage 3 quarts d'heure à peu près, constituée uniquement de textes de Ground Zero. Comment est-ce que je pourrais résumer ça? Bon, c'est l'effondrement, en fait. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans La Nuit de la Grèce. L'immeuble est écroulé, mais les gens, ils continuent de vivre dans les ruines, de passer l'aspirateur, de faire les vitres sous les bouts de verre cassés. Et donc voilà, bah, je continue. Ils continuent de vivre dans les ruines.
Parce qu'on peut pas faire autrement.
Parce qu'on pense qu'il y a que les ruines.
Alors, je vais citer François Huglot dans sa recension de votre tout dernier livre intitulé, on le rappelle, Ground Zero, édité pour ne pas changer à l'atelier de l'Agneau parce qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Alors, je le cite. Aldo Kureishi travaille l'angoisse comme un morceau de viande, la nôtre, qui est aussi une machine infernale, celle dont Hitchcock fait des films menant progressivement au point zéro du trouillomètre. Aldo Kureishi touche immédiatement ce point où s'aventure au plus près du Ground Zero, l'endroit précis où a lieu l'explosion nucléaire, l'épicentre du séisme, le départ de l'épidémie. Sur scène ou sur YouTube, son sérieux toujours au bord de la panique évoque Buster Keaton ou un DeVos sans jeu de mots. Antidote kafkaïen à la pléthore d'humoristes qui ne font pas rire ou font à peine sourire, ce virtuose des zygomatiques les noue solidement au plexus solaire. Point zéro, pointe du sabre ou fil de la lame qui fait harakiri. Un bel hommage. Ce dernier recueil est paru début 2024 et semble être une sorte de bouquet final après les feux d'artifice déjà lancés précédemment. Dans ce livre, on peut lire, par exemple, il pousse et contracte ses muscles à tel point qu'on voit des comédons expulsés qui sortent de sa peau comme des lombriques. Et là, on est vraiment dans l'univers de Gottlieb, de l'écho des savanes, ou encore dans le roman « Attentat » d'Amélie Nothomb. Cette exagération assumée et revendiquée, est-ce qu'elle vous est naturelle, ou est-ce qu'elle vous devient une seconde peau?
Ah non, j'ai l'habitude de toujours exagérer. Dans mes rapports, tout le temps, c'est une façon de... Je sais pas, de... C'est peut-être la timidité qui fait que je préfère aller en avant, en rajouter une couche, de surjouer tout le temps, voilà, d'exagérer. Ça me plaît, je trouve ça très drôle, l'exagération. Je devais être dans le métro ou dans le train, et j'ai dû voir quelqu'un, un homme qui était en pleine inflation de sa virilité et qui roulait des mécaniques, comme on disait dans le temps. Et j'ai pensé à un type comme ça qui serait en train de frimer à mort et dans son salon, et alors que sa femme elle reçoit ses copines, elles sont en train de discuter, et lui il essaye de faire admirer ses biceps, alors c'est un bodybuilder quoi, et donc il est en slip, le corps huilé, l'auton bronzant, et il contracte les pectoraux, les nanas elles sont en train de parler, elles boivent du thé, elles mangent des biscuits, il change de posture, il prend la posture du javelot, et ça marche pas, il monte sur la table basse Elles sont en train de parler de leur copine qui a eu des ennuis avec son petit chien. Et bon, lui, il est vraiment embêté. Donc, ce qui fait qu'il vient se placer entre elles. Et puis là, il recontracte les pectoraux, les triceps, les quadriceps, les machins, les cuisses, les muscles hypertrophiés. Et, bon, tout le monde s'en fout. Puis finalement, bah, c'est l'heure de rentrer. Donc, elles se font la bise. Et puis lui, il ramasse les petits comédons. Puis il les met dans les sacs à main comme si c'était des cartes de visite.
Là encore, sorte d'improvisation. Est-ce que vous avez écrit des scénarios pour des gens de la BD
Alors oui, justement, depuis très peu de temps, je travaille et je m'amuse beaucoup avec Denis Moreau. C'est d'ailleurs lui qui a fait la couverture du dernier livre, Denis Moreau. Son activité principale à Denis Moreau, c'est d'être dessinateur de bande dessinée. Et nous travaillons tous les deux, enfin collaborons plutôt tous les deux à un fanzine, le fanzine du village où j'habite, qui s'appelle Melionec, et le fanzine s'appelle Commune Ouragan. Et là, on a récemment fait une collaboration de bande dessinée. J'avais réécrit le poème que j'ai lu tout à l'heure, La nuit de la San Lorenzo, je l'ai réécrit en version très courte, assez épurée. J'ai donné ça pour le fanzine. Faut dire que le poème ressemblait plus tellement à celui que j'ai lu tout à l'heure. C'est vraiment... Il n'y a que l'idée de départ des loups avec les animaux. Et puis tout le reste a été transformé. Et j'ai donné ça à Denis. Et puis il l'a lu. Et fait, on peut en faire une planche. Et en quelques heures, je ne sais plus, la séance de travail a duré 2 heures, je crois, à peu près, 2 heures et demie. Il a fait une planche de BD comme ça. Et en ce moment, on travaille à nouveau sur des mini bandes dessinées, sur des petits formats.
J'allais vous poser la question de vos prochains projets, mais en voilà un.
Ouais.
Hein ? Est-ce qu'il y a des manuscrits en cours ?
Il y a plein de manuscrits en cours. La période où nous sommes toutes restées enfermées chez nous, eh bien, ça s'est accumulé beaucoup. J'ai pris du retard. Quand il y a un manuscrit qui est terminé, j'éprouve beaucoup de difficultés à revenir dessus. Donc je passe à autre chose. Et là, je suis passé à autre chose pendant 2 ans. Donc j'ai pas mal de trucs qui se sont accumulés. Récemment, j'ai commencé à travailler sur... Comme j'ai dit, je travaille toujours pour la scène. Et là, j'ai commencé à faire un texte pour faire une sorte de... Pas de one-man show, mais quelque chose de... D'habitude, quand je fais une lecture publique, une performance, ce sont plusieurs poèmes tirés d'un livre. Et je m'arrange pour qu'il y ait une sorte de scénario qui apparaisse dans le montage des textes, les uns avec les autres. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose qui soit uni, qui se tienne de bout en bout et qui soit un seul et même travail, qui ait un début, milieu, une fin, des péripéties, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment un one-man show, c'est pas un monologue non plus, c'est une histoire que je compte raconter sur scène. Voilà, je travaille là-dessus. J'en ai plusieurs comme ça, 2 en ce moment.
Et vous avez des dates où est-ce qu'on peut vous voir ?
À la librairie de Melionec, le 15 juin. Il faut venir à Melionec le 15 juin, parce que non seulement, bon, voilà, moi, évidemment, je vais lire, bon, ça va, voilà. Mais ensuite, 5 jours plus tard, non, un peu plus de 5 jours plus tard, combien, attends, je calcule, 12 jours plus tard, mais on peut passer de très bonnes vacances à Melionec. Il y a les rencontres du cinéma documentaire à Melionec, et c'est très, très drôle.
Eh bien, ça a l'air d'une petite bourgade très dynamique, ce Melionec. Et c'est dans les Côtes d'Armor. Est-ce que vous intervenez au milieu scolaire ? Est-ce que vous animez des ateliers d'écriture ?
Ah oui, alors j'ai découvert ça grâce à la Factory, les ateliers d'écriture, les interventions au milieu scolaire. Récemment, j'ai travaillé grâce à un de mes voisins, mais c'est un peu plus qu'un voisin, c'est un ami, c'est une personne qui de Melionec, qui est professeur dans un lycée, dans un collège agricole. Et j'ai travaillé là-bas, j'ai fait un atelier d'écriture auprès d'une classe, auprès d'élèves qui ne sont pas du tout familiarisés avec l'écriture, ni avec la lecture. Et j'ai adoré cette expérience. C'était... Le premier jour, je leur ai donné un sujet, ils m'ont écrit une ligne sur une feuille A4. Et puis le dernier jour, j'avais recto verso. Voilà, j'étais très content.
Eh bien Aldo, le temps passe très vite et il va être temps pour nous de rendre l'antenne. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour cet entretien accordé alors que vous êtes ici à la Maison de la Poésie de Normandie, encore appelée Factory, pour travailler. Bonne continuation à vous, on vous souhaite tout le meilleur, all the best, comme on dit en anglais. C'était Les Mots d'Azur ou la poésie en direct. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité en un autre endroit dédié à la poésie. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir.